Martin Kobler fait le bilan de l'année 2014 et répond à vos questions en direct sur les médias sociaux de la MONUSCO et sur www.radiokepi.net ce jeudi 4 décembre à partir de 15h30, heure de Kinshasa. Vous voulez participer au débat? C'est simple. Suivez-nous et envoyez vos questions et commentaires sur les pages Facebook de la MONUSCO, de Radio Capi et sur Twitter. Une heure avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, c'est ce jeudi 4 décembre de 15h30 à 16h30, heure de Kinshasa. Toutes vos questions sur la MONUSCO sont les bienvenues.
En République démocratique du Congo, plus de 80% des 440 000 personnes atteintes du VIH-SIDA ne reçoivent pas les traitements qui pourraient leur sauver la vie, selon un rapport de MSF. Et pourtant, un dépistage et une prise en charge rapide et adaptée permettent le plus souvent aux personnes atteintes du VIH-SIDA de mener une vie normale. Alors, que faire aujourd'hui pour inverser la tendance? On en parle avec nos deux invités, Louise Roland-Gosselin, chef d'émission adjoint MSF, et Dr Jean Gilbert Andong, responsable médical du projet SIDA MSF à Kinshasa. Alors, docteur Jean Gilbert, vous confirmez ces chiffres? Plus de 80% des malades n'ont pas accès au traitement
en RDC. Effectivement, ce sont des chiffres qui ont été produits par MSF et qui se basent sur la réalité. Donc, aujourd'hui, en RDC, plus de 80% qui ont besoin d'un traitement ne peuvent pas l'avoir. Et nous, MSF, nous nous battons pour que nous puissions inverser la tendance avec tous les acteurs de la lutte.
Mmh. Alors Louise, pourquoi, quelles sont les raisons qui font que plus de 80% n'ont pas accès au traitement?
Oui, ben, le gros problème, c'est que les gens, finalement, doivent, alors qu'en théorie, les soins, le dépistage et le traitement pour les gens qui ont le VIH sont gratuits, la réalité, c'est que parce que les centres de santé sont sous-financés, les centres de santé font payer aux patients, par exemple, les fiches d'inscription qui coûtent 3$, la consultation médicale qui coûte 5 à 10$. Ils font faire aussi des suivis biologiques qui sont aussi payants. Et donc, même si en théorie, il y a la loi de la gratuité pour la prise en charge du VIH, même si en théorie, les médicaments et le test de dépistage VIH sont véritablement gratuits, la réalité, c'est qu'il y a une pléthore de tests, une pléthore de barrières financières au niveau des centres de santé qui font que les gens n'ont simplement pas d'accès à ce dépistage et à ce traitement.
D'abord, on retient que c'est à cause de la pauvreté. Les gens n'ont pas assez de moyens pour aller souffrir un traitement.
La pauvreté est clairement problématique. Plus de 70% de la population au Congo vit avec moins d'un dollar par jour. Ça, c'est problématique. Mais c'est surtout que le système de santé est sous-financé. Si vous avez un système de santé qui est proprement financé, à ce moment-là, les structures de santé ne vont pas essayer de faire payer toute une pléthore de tests aux patients qui viennent pour des tests gratuits. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que, avec les autorités, avec le ministre de la Santé, on lance vraiment un appel pour que la lutte contre le VIH-SIDA soit proprement financé, c'est-à-dire que les centres de santé soient mieux financés et que la lutte contre le sida soit mieux financée par les bailleurs, par le gouvernement.
Docteur Jean, y a-t-il d'autres raisons qui font que les gens n'ont pas, beaucoup de personnes n'ont pas accès au traitement?
Effectivement, il y a d'autres raisons qui expliquent cet accès limité au traitement, et ce sont notamment des raisons de stigmatisation. Donc la stigmatisation reste très très présente aujourd'hui au Congo. Donc on a beaucoup de patients qui ne viennent pas à l'hôpital connaissant leur statut parce qu'ils ont peur du regard d'autrui, ils ont peur des dires des autres, et ça ne facilite pas vraiment, ça n'aide pas vraiment à lutter contre ces chiffres qui sont très 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 impressionnants. Louise en a parlé tout à l'heure. Et bien évidemment, il y a des problèmes de couverture. Donc au jour d'aujourd'hui, les chiffres font état d'une couverture de 100%, c'est-à-dire partout dans les structures, dans toutes les formations sanitaires, on peut trouver un paquet VIH pour suivre les patients. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Point d'interrogation. Dans plusieurs structures de la place, il y a des médecins qui ne sont pas forcément formés à une prise en charge adéquate des patients. Il n'y a pas toujours les tests disponibles pour faire l'examen. Il n'y a pas toujours les médicaments disponibles pour suivre le patient. Ça résulte quand même d'un problème structurel, c'est-à-dire les tests sont là, tout est là, mais maintenant, sur le terrain, est-ce que tout est mis en place pour que le patient puisse braver toutes ces barrières, ce n'est pas toujours évident.
Et revenons un peu sur les barrières financières. Comment se présente la situation, Louise ? Quelles sont ces barrières ? À quel niveau il se pose des problèmes ? Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour résoudre ces problèmes-là ?
Mais par exemple, une illustration de ces barrières, c'est hier quand j'étais au centre hospitalier Kabinda qui est géré par MSF à Kinshasa et qui traite justement gratuitement les patients pour le VIH. Juste dans les 2-3 heures que j'étais là, deux patients sont décédés. Une petite fille de 13 ans et une jeune femme d'une trentaine d'années. Et en fait, la raison pour laquelle elles sont décédées si rapidement, 2 jours après être arrivées chez nous, c'est qu'elles sont arrivées trop tard. Et c'est que cette petite fille qui avait le VIH, elle a été dépistée beaucoup trop tard et elle n'avait pas des ARV pédiatriques, c'est-à-dire le traitement antirétroviral pédiatrique pour les enfants, qui est différent que celui pour les patients.
Pour les adultes.
Exactement, pour les adultes. Et donc non seulement elle n'avait pas l'argent pour se faire dépister à temps et pour être mise sous traitement, mais aussi les ARV pédiatriques, il y en a très peu dans le pays. Donc ça, c'est une autre barrière. Et puis la jeune femme, tout simplement, la stigmatisation a fait que c'est plus difficile d'aller de l'avant pour se faire dépister. Mais surtout, quand elle est arrivée au centre de santé, on lui a fait payer la fiche d'inscription. On lui a fait payer la consultation médicale. On lui a fait payer des tests biologiques très réguliers. Alors que normalement, on a besoin de faire un suivi biologique peut-être une ou deux fois par an. Et bien là, ils insistent pour que ça soit fait tous les mois, pour qu'ils gagnent de l'argent un peu tous les mois. Et ça, du coup, on se retrouve dans notre hôpital à récupérer des gens qui sont vraiment en fin de vie. Un quart des patients que nous hospitalisons au centre hospitalier Kabinda décèdent dans les jours qui suivent leur arrivée. Donc ça, c'est presque plus d'un patient par jour d'ailleurs.
Voilà. Allez-y, continue. Si vous pouvez vous rapprocher de votre micro.
Pardon. Voilà, je m'en rapproche. Et donc, par exemple, l'année dernière, il y a 377 patients qui sont décédés au CHK parce que, justement, ils sont arrivés trop tard. Et ça, c'est inacceptable. Les 3 premières semaines de novembre, c'était 25 patients, dont une petite fille de 12 ans, Élise, qui est
arrivée. Pourquoi ces patients arrivent très tard ?
Mais c'est justement parce qu'ils sont malheureusement...
Un problème d'information, ils ne sont pas très bien informés.
Alors, bien sûr, comme l'a dit Dr Jean Gilbert, il y a toute la problématique de la stigmatisation. On a peur de se faire dépister, parce qu'on a peur que si on a le VIH-SIDA, on soit exclu de nos familles, on perde notre travail, on soit vraiment exclu des communautés. Donc ça, on a clairement peur de la maladie. Et les gens ne se rendent pas compte que si on est dépisté, si on est mis sous traitement, on peut avoir une vie active. Et ça, c'est clairement une grosse barrière. Et c'est pour ça qu'il faut casser cette barrière de la stigmatisation. Donc, par exemple, au marché des libertés cette semaine et par exemple hier, on a mis des immenses affiches avec des personnes vivant avec le VIH et on a montré justement que il y avait des messages, il y avait les photos de ces personnes-là qui disaient avec le traitement VIH, je peux avoir une vie active, je peux travailler, je peux m'occuper de mes enfants. Et ça, c'est les messages qu'on essaie de faire passer justement, c'est qu'on voit des personnes en pleine forme. Et donc, il faut absolument que les gens se fassent dépister, prennent leur traitement. Mais je pense que la plus grosse barrière au-delà de la stigmatisation, c'est réellement les coûts financiers.
Et voilà, barrière financière. On parle même du sous-financement chronique par le gouvernement, parce que la part du gouvernement ne représente que 1,18%, alors que les patients supportent même les soins à hauteur de 38%. Donc voilà comment se présente la situation. Je reviens à vous dans quelques instants. Il est temps d'accueillir deux auditeurs. Platini Bombo nous appelle d'Imbandaka. Eliezer se trouve à Magui. Eliezer, en province orientale, nous allons les accueillir dans quelques instants.
Kinshasa accueille du 21 novembre au 19 décembre la première biennale de l'art contemporain Yango autour du thème avancé. 25 artistes venus d'Asie, d'Europe, des Caraïbes et d'Afrique présentent leurs œuvres dans plusieurs sites, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut Français et l'Échangeur de Limité. Au menu, des expositions, installations, performances, ateliers, conférences débats, workshops et spectacles de musique. La Biennale Yango est un événement de l'agence de production Mutotu en collaboration avec Radio Capi.
Comment faciliter l'accès au traitement antirétroviral ? On en parle aujourd'hui dans Capi Service. Platini Mbombo, vous êtes à Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour aussi à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kafiku de Sui, à travers des Mbandaka, chef-lieu de la province.
Platini, quelle est votre question? Quelle est votre question, Platini?
Merci beaucoup, Jody. Je vous remercie d'abord de votre thème aujourd'hui, parce que c'est un thème très, très important. Et moi, je voudrais quand même aller rapidement à mes deux petites questions. Mm-hmm. La première est de savoir quelles sont les barrières pour bloquer cette maladie à RD Congo. Et la deuxième question, je voudrais quand même savoir, pour que cette maladie soit terminée définitivement ici à RD Congo, à quelles sont maintenant les procédures que la PNMS peut nous donner pour commencer maintenant à éteindre cette maladie à République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.
Merci. Eliezer, vous êtes à Mahagui. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kafiku.
Quelle est votre question, Eliezer?
Ma question, celle-ci. Beaucoup, surtout dans des reculés du pays, dans des campagnes, les gens n'ont pas vraiment accès à ces antirétroviraux parce que ils sont dupés parfois par ces distributeurs. Alors, quels sont les mécanismes que l'État congolais a pu maintenir pour pouvoir faire que ces antirétroviraux puissent atteindre toutes les couches du territoire national?
Allez, c'est ma première question. Eliezer, vous dites que les gens n'ont pas accès aux antirétroviraux parce qu'il y a des gens qui les trompent ou qui détournent les médicaments, c'est ça?
Oui, c'est ça le problème, c'est ça le grand problème. Les gens n'ont pas vraiment cet accès-là parce qu'il y a beaucoup de barrières, surtout pour les distributeurs obligent parfois des montants trop majorés. Ils font payer des gens, alors les habitants ont peur d'aller à des hôpitaux, d'aller dispenser par peur de pouvoir dépenser trop d'argent.
D'accord. La deuxième question.
Ma deuxième question, c'est de savoir. J'ai attendu hier soir en dialogue entre Congolais une dame là que je n'ai pas bien maîtrisé son nom. Il a dit la RDC est en retard de 15 ans pour combattre contre le SIDA. Alors les Congos, plutôt la RDC étant conscient de ces 15 ans là de retard, quel mécanisme peut-il mettre en œuvre pour pouvoir récupérer tous ces temps-là, si c'était vrai, ces allégations que j'ai écoutées hier.
Merci Eliezer de Mahagui. Docteur Jean Gilbert, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord au premier auditeur?
Alors, à Platini de Bandaka, déjà bonjour. Donc il demandait quelles étaient les barrières dans les mécanismes mis en place pour freiner la propagation de la pandémie. Donc le premier mécanisme, c'est effectivement le dépistage. Donc tout le monde doit se faire dépister pour connaître son statut. Donc c'est ça la porte d'entrée pour la prise en charge. Donc le dépistage, c'est pour ça qu'on parle dépistage. Effectivement, on vous a donné des chiffres tout à l'heure, mais derrière ces chiffres, il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur dépistage. Donc on peut pas avoir vraiment une idée complète sur le nombre de patients et ainsi de suite. Donc le dépistage, tout le monde est appelé à se faire dépister.
Donc, et c'est après les dépistages que ceux qui sont séropositifs
maintenant
seront mis sous traitement.
Ceux qui sont séronégatifs, on leur donne le message selon lequel ils doivent continuer à se préserver et éviter de contacter la maladie. Mmh. Ça, c'est important.
Oui.
Mais maintenant, ceux qui sont séropositifs, ils sont pris en charge. Alors, la prise en charge, elle se passe à différents niveaux. Donc, le premier niveau de prise en charge, c'est de faire un examen. Lui, en a parlé tout à l'heure. Ça peut être, ce sont des CDKs, on appelle bilan biologique. Donc, un examen qui nous permet de connaître quel est l'état de l'organisme à ce moment précis. Hein, l'état de l'organisme, dans l'état de, on parle de l'immunité. Donc, savoir si l'organisme a encore suffisamment de force pour lutter contre le virus. Et on fait cet examen qu'on appelle les CD4. Donc, au jour d'aujourd'hui, en RDC, le gouvernement congolais a adopté les directives OMS qui disent que tous les patients qui ont un taux de CD4 inférieur à 500 doivent être mis sous traitement. Donc, une fois que c'est fait, si le taux est inférieur à 500, vous êtes mis sous traitement, et vous êtes suivi. Si le taux il est supérieur à 500, ce qui est très rare, on vous donne un rendez-vous et vous revenez 6 mois après pour qu'on le contrôle. Donc Ça, c'est une chose. Donc, dépistage, mis sous traitement, en fonction des résultats des examens. Mais par la suite, il y a tout ce qu'on appelle le suivi. Et ça, ça reste un peu le ventre mou de la prise en charge. C'est-à-dire que la plupart des structures s'attellent à mettre les patients sous traitement. Et après, je ne vais pas dire qu'on les rejette dans la nature, mais ils sont un peu abandonnés eux-mêmes. C'est-à-dire, nous, à MSF, qu'est-ce qu'on fait? On a toute une équipe pour le suivi du patient qui entretient le patient pendant les premiers jours, pendant les premiers mois, pour que le patient puisse faire fusion avec son traitement. Pour
qu'il achète son traitement. Ceux qui sont sous traitement antirétroviral, ils reviennent combien de fois? Chaque mois ou c'est chaque semaine qu'ils viennent pour prendre les produits?
En principe, les 6 premiers mois, le patient doit revenir tous les mois à la structure. Bon, maintenant, ça dépend d'une structure à l'autre, ça peut dépendre d'un patient à l'autre. Mais en principe, le premier mois, le patient, il prend son traitement, il revient le deuxième mois, il revient le troisième mois. Et après, on fait des contrôles pour voir s'il a bien, s'il prend bien ses médicaments.
D'accord.
À partir de 6 mois, on commence à faire des contrôles biologiques pour voir si l'organisme qui était faible au début a, avec l'aide des AEV, peut reprendre le dessus. Donc on fait ces contrôles tous les 6 mois et après on peut les faire chaque année.
D'accord.
Donc j'ai parlé tout à l'heure des CD4, mais il y a aussi un autre examen qu'on utilise qui est la charge virale, qui nous permet de mesurer la quantité de virus qui circule dans l'organisme. Donc c'est un examen beaucoup plus précis.
D'accord. Bien, avant de donner la parole à Louise, nous allons accueillir Jean Desdieux de Kikuit. Jean Desdieux, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à nos deux invités qui sont à la radio.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai une préoccupation et une question.
Allez-y.
Merci beaucoup pour la parole, je dirais ceci. Quand on parle de la prévention de la pandémie de VIH-SIDA, surtout ici à vie dans la vie de Kikuit, ce qui manque, on ne pouvait pas prévenir cela parce qu'il y a vraiment... Et il n'y a pas la sensibilisation à ceux qui sont déjà atteints et à ceux qui ne sont pas atteints.
Oui, Jean Desdieux, aujourd'hui on parle beaucoup plus de l'accès au traitement antirétroviral. Vous avez des questions par rapport à ce thème?
Oui, ma première question est que quand on a déjà dépisté quelqu'un, on sait qu'il est déjà atteint. Combien de fois il pouvait poursuivre son traitement? Ma deuxième préoccupation, pour ce qui concerne les traitements de la pandémie de VIH, ici on trouve qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas, qui ne prennent pas de traitement faute de moyens, comme l'invité vient de le dire. Dans ces cas-là, nous demandons que notre invité, quand il est là-haut sur le plateau, qu'il puisse quand même aider à conseiller ceux qui ont des antirétroviraux à la maison, de les prendre vraiment en considération. Merci beaucoup.
Bien, Rachel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Allô, bonjour.
Nous parlons de l'accès au traitement antirétroviral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci. J'ai deux petites questions. Avant de la poser, je me rejoins parce que ce matin, j'ai suivi à la télé une émission qui passait sur le VIH-SIDA. Et ce qui m'avait beaucoup étonné, ces gens, donc les personnes là vivant avec le VIH-SIDA et même ils ont accepté de témoigner à la télé. Et leur témoignage, bon, m'a un peu impressionné. Alors ma question, je voulais peut savoir, et parce qu'il y avait une maman qui a dit que elle, c'était en 2004 qu'elle a su qu'elle est déjà atteinte de la maladie du VIH-SIDA, mais avant, elle avait déjà donné naissance à un enfant. Et quand, en 2004, là, quand elle est partie à l'hôpital, elle a dit qu'elle était atteinte de la maladie, elle était aussi grosse, mais le mari n'était pas atteint. Jusqu'à aujourd'hui, son mari n'est pas atteint, mais il n'est pas encore atteint de la maladie et il continue toujours à vivre ensemble. Et le deuxième enfant, dont il était grosse, l'enfant était venu au monde sans être aussi contaminé. C'est ça un peu ma question. La première question, mais là, on peut savoir si, comment ça s'est fait. Parce qu'avant, la femme ne savait pas si elle était déjà atteinte de la maladie, mais son mari, il n'est pas atteint de la maladie. Et la deuxième question, je voudrais savoir, concernant, on parle de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Cette prise en charge, c'est ceci à quoi? Parce qu'il y avait aussi une maman qui disait, depuis que sa famille a su qu'elle était contaminée, parce que son mari était déjà mort, et la famille l'a chassée aussi de la maison, elle vit maintenant à l'église. Elle vit avec tant de difficultés. Maintenant, la prise en charge, est-ce que c'est seulement pour les donner des antirétroviraux ou les prendre aussi en charge?
Bien, merci. Fils, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Je voulais juste demander à l'invité, est-ce les ARV, les donnent gratuitement ou bien ça a un coût? Et si ces ARV ici a un coût, quel coût est des ARV? Et puis je voulais un peu demander, deuxième question de savoir, une personne qui n'a jamais passé par le dépistage, si la personne-là est déjà séro-négatif, ou séro-positif, mais la personne n'a jamais été par le dépistage. Si la personne-là ne connaît pas son état philosophique, est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais?
D'accord, merci. Louise Roland, vous avez suivi Eliezer de Maagdi qui a un certain centre, certaines structures qui font le business derrière les ARV et qui les vendent un peu trop cher. Il y a un autre auditeur qui veut savoir, est-ce que ça se donne gratuitement ou bien comment ça se passe?
Clairement, il y a un problème de distribution des ARV. Donc les ARV sont clairement gratuits. Il ne faut pas payer pour le test de dépistage, il ne faut pas payer pour les ARV. Et en général, ceux-là ne sont pas payants. Le problème, c'est qu'on fait payer pour d'autres tests avant d'avoir les ARV ou avant de se faire dépister. Mmh. Et c'est ça le problème. On doit payer pour la consultation médicale. On doit payer pour des tests de suivi biologique pour avoir accès à ces médicaments-là. Et parfois, dans certaines situations, on fait aussi payer pour les médicaments. Mais le gros problème, c'est surtout tous les coûts qui vont autour, justement, du dépistage et du traitement. Ensuite, clairement, la RDC est un pays immense. Il y a clairement des problèmes pour acheminer les médicaments partout dans toutes les provinces. Nous voyons donc, et même à Kinshasa, des ruptures de stock, des ruptures d'ARV dans différents centres de santé régulières. Et MSF documente cela, travaille avec le PNLS, avec les autres acteurs, par exemple Corded, pour justement améliorer le système d'approvisionnement pour qu'on ait une meilleure couverture et un meilleur accès à...
Déjà plus de 80% des malades n'ont pas accès aux ARV parce qu'il y a le gouvernement sous-finance et les bailleurs se désengagent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'accès à un plus grand nombre de malades, faciliter l'accès au traitement?
Alors, une première chose qui est très importante dans la lutte contre la VIH, c'est premièrement la protection, c'est l'utilisation des préservatifs. Et ça, c'est la première chose que tout le monde doit faire, que les jeunes à l'université, il faut qu'il y ait de la sensibilisation, il faut que, justement, on arrête le fait que ça continue à grandir et à être donné à plus de personnes. Ensuite, une deuxième chose très importante, c'est d'encourager le dépistage et d'encourager la mise sous traitement. Et ça, on peut le faire, par exemple, en rendant plus facile le dépistage, faisant le dépistage dans plus d'endroits. Et une chose qui est clé, bien sûr, c'est de financer les centres de santé. Et là, le gouvernement a un vrai rôle. Ce n'est pas le rôle des ONG de faciliter l'accès à tout le monde. Nous, on le fait, on fait un tout petit bout, mais c'est vraiment le rôle premier du gouvernement, absolument.
Et d'ailleurs, on a appris qu'il y a beaucoup de bailleurs qui se sont désengagés. Pourquoi ?
Beaucoup de bailleurs sont désengagés parce qu'ici, c'est un pays où il y a ce qu'on dit une faible prévalence. C'est qu'il y a seulement 1,2% de la population qui a le VIH. Mais la population étant tellement importante, ça fait presque un demi-million de personnes qui ont le VIH. Et les bailleurs disent, ah oui, mais le gouvernement, il ne met même pas assez de sous. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait s'engager si le gouvernement ne s'engage pas? Et c'est pour ça que le gouvernement a montré sa volonté à justement financer. Ils sont intéressés par différentes choses. Et donc maintenant, ils ont fait des promesses. Il y a la loi sur la gratuité. Et maintenant, il faut que ces promesses deviennent des actions. Et par exemple, nous, un des modèles qu'on a mis en place et qu'on est en train de discuter avec le PNLS, PNMLS, ministère de la Santé, c'est des postes de distribution communautaire d'ARV. Et ça veut dire qu'il y a des petits postes à travers la communauté où les gens peuvent facilement venir se faire dépister et chercher leur traitement. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller dans les centres de traitement, donc une fois qu'ils sont stabilisés, ils n'ont plus besoin d'aller dans les centres de santé là où ils risquent de se faire racketter, ils risquent de devoir payer pour une consultation, ils risquent de nouveau de ne pas avoir assez d'argent pour avoir leurs ARV. Ici, on le met au sein de leur communauté. Et donc ils y vont une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, ils prennent leurs médicaments, mais aussi ils combattent la stigmatisation, ils parlent avec d'autres personnes qui ont le VIH, et ça c'est un des meilleurs moyens justement de combattre ces barrières financières, de combattre cette stigmatisation. Et on est très encouragés avec les discussions qu'on a avec ONU-SIDA, avec le PNLS, PNMLS, justement d'essayer d'étendre ce système-là. Et je pense que ça, c'est un des meilleurs moyens de combattre la stigmatisation et de combattre les barrières à l'accès au dépistage et traitement.
Docteur Jean Gilbert, comment faciliter l'accès aux antirétroviraux?
Alors, comment faciliter l'accès je crois que
lui, au-delà de ce que Louise vient de dire.
Oui, bien sûr.
Donc, oui, si je puis ajouter quelque chose, c'est dire que tous les acteurs ont une responsabilité. C'est-à-dire, il y a une responsabilité au niveau gouvernemental. Le gouvernement, effectivement, doit mettre plus de fonds. Le gouvernement doit travailler à l'organisation, à une meilleure organisation du système de santé. Il y a une responsabilité au niveau communautaire. C'est-à-dire, la communauté ne doit pas rejeter les patients qui souffrent de VIH aujourd'hui. C'est inconcevable qu'aujourd'hui, en 2014, qu'on ait encore dans des familles des gens qui mettent à l'écart des patients vivant avec le VIH.
Vous avez même suivi, il y a Rachette qui nous a parlé d'une dame qui vit à l'église, hein, son mari est décédé.
Ça, c'est inconcevable. Inconcevable au jour d'aujourd'hui qu'on en arrive encore là. Donc, il y a une responsabilité au niveau communautaire. Il y a une autre responsabilité au niveau communautaire qui est celle d'inciter les gens à se faire dépister. Donc, il faut que les gens se fassent dépister de plus en plus. Mais il y a également une responsabilité au niveau individuel. Chacun de nous, qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau? Je crois que la première chose, c'est de se faire dépister, connaître son statut. Et si jamais on est atteint, se faire prendre en charge. C'est-à-dire aller dans une structure de santé et demander à avoir des médicaments.
C'est vrai. Gratuitement.
Gratuitement, parce que c'est notre droit.
Il faut que les gens. Mais c'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas.
Qui payent pour avoir des médicaments.
C'est pas toujours le cas, mais il faut que les gens le sachent. Parce que une fois qu'on a l'information, après on peut réclamer. Si on n'a pas l'information, on peut pas suivre derrière. Et au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous travaillons avec un réseau d'organisations à base communautaire qui est le Renouac, qui a mis dans plusieurs structures de santé des systèmes de veille avec des patients qui contrôlent et qui veillent sur cette gratuité-là. Donc il faut que les gens le sachent. Si les gens ils n'ont pas l'information, ils vont pas y aller. Donc
d'accord.
Ça, c'est très important.
Très important. Thierry nous appelle des Djougou, à Nitouri. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Oui, quelle est votre question Thierry? Nous parlons de l'accès au traitement antirétroviral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi je voulais savoir si ce virus-là de Gala, si ce virus vit là où il y a l'oxygène ou ça ne vit pas là où il y a l'oxygène.
Non, le thème, c'est l'accès au traitement antirétroviral. Ça, c'est une autre question. Merci d'avoir appelé. On aura l'occasion d'en parler prochainement. Bien, merci Thierry. Alors, je reviens à vous, docteur Jean Gilbert. Vous étiez en train de dire qu'il faut que les malades sachent que le traitement antirétroviral est gratuit.
Il faut
qu'ils n'ont rien à payer pour avoir accès au traitement.
C'est exactement ça le message que nous passons. Donc, le dépistage est gratuit. Le traitement est gratuit, il faut que les malades le sachent.
D'accord.
Et ça, c'est important parce que en prônant cette gratuité, on s'attend à avoir plus de personnes qui vont venir se faire dépister. Et il faut que les gens sachent également que plus les gens sont pris en charge de manière précoce, moins on en arrive au décès ou bien à des cas pathétiques. C'est-à-dire un patient au jour d'aujourd'hui qui arrive, qui est dépisté tôt et qui a son traitement tôt, qui le prend bien, il va continuer à vaquer à ses occupations, il va continuer à nourrir sa famille, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des familles, il y a beaucoup d'orphelins, ces orphelins, ils peuvent plus aller à l'école, le papa n'est plus là, la maman, elle est peut-être là, mais elle est malade. Donc, le problème du VIH aujourd'hui, on parle de pandémie, c'est un problème communautaire, un problème sociétal.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en traitant des patients de VIH, en les traitant plus tôt, on arrive à régler beaucoup de problèmes, on arrive même à régler certains problèmes de pauvreté.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a des centres où les gens peuvent aller se faire dépister gratuitement?
Je vous ai parlé tout à l'heure de la couverture. Non, le Renouac n'est pas un centre de traitement. Le Renouac, c'est un réseau assise communautaire qui travaille avec MSF et qui a pu créer avec l'aide d'MSF ce qu'on appelle les postes de distribution communautaire. Et lui, en a parlé tout à l'heure, qui sont des postes où les patients peuvent avoir accès à leurs médicaments. Eux, ils peuvent avoir accès au dépistage, eux, ils peuvent avoir accès à des entretiens individuels avec leur père.
Mmh.
Et donc, ça, c'est un projet que nous avons mené jusqu'ici et que nous sommes en train de vouloir implémenter dans toute la ville de Kinshasa et peut-être plus tard dans tout le Congo avec l'aide de PNLS.
Il n'y a pas d'hôpitaux, des grands centres où les gens peuvent aller.
Ça, c'est au niveau communautaire. Maintenant, sur le plan médical, effectivement, dans tout le Congo, il y a des structures de prise en charge qui sont spécialisés dans le dépistage, le traitement et le suivi des patients qui vivent avec le VIH. Donc au niveau de la ville de Kinshasa, dans toutes les zones de santé, il y a ces centres qui existent et dans tous les hôpitaux généraux, les patients peuvent avoir accès à leur au dépistage, peuvent avoir accès aux ARV, peuvent avoir accès au suivi biologique de manière gratuite.
D'accord. Alors pour terminer, Louise, vous estimez, d'après vous, il faut injecter combien, le gouvernement doit injecter combien chaque année pour permettre l'accès au traitement à un plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de plus de 80% n'ont pas accès au traitement, aux ARV. Maintenant, il faut combien pour permettre un accès 100% de tous les malades au traitement?
Alors c'est très difficile de quantifier ça. Par exemple, le Fonds mondial va donner 130 millions pour les 3 prochaines années. Mais clairement, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et clairement, le gouvernement jusqu'à présent ne finance qu'1% de la lutte contre le sida en RDC. Donc il y a beaucoup plus qui a besoin d'être fait. Et certainement, même la ligne budgétaire existante du gouvernement, elle n'est décaissée, elle n'est que très peu décaissée. Donc malgré le fait qu'ils doivent donner une contrepartie, ils ne donnent que très peu. Et ce qu'ils donnent, malheureusement, ça va dans l'organisation d'ateliers plutôt que le soutien aux patients. Donc clairement, il y a beaucoup plus de financements qui sont nécessaires, mais aussi, allez, il faut davantage soutenir ces centres de santé. Et il faut que les patients et que les gens potentiellement qui pensent qu'ils ont le VIH-SIDA, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que le dépistage et le traitement sont gratuits d'après la loi de 2008. Donc ils peuvent aller dans un centre de santé, dans un hôpital, et ils disent « je veux me faire dépister pour le SIDA ». Si les gens disent « ah, alors il faut payer telle ou telle chose », qu'ils disent « non, c'est gratuit, c'est mon droit, j'ai le droit de me faire dépister gratuitement ». Et c'est pour ça que s'ils ont des problèmes à ce moment-là, qu'ils contactent des organisations comme la RENOAC, comme Femmes Plus, des organisations à assises communautaires dont le rôle c'est justement de faciliter cet accès au dépistage et au traitement. Et qu'eux s'informent sur leurs droits et que vraiment ils fassent valoir dans les centres de santé, dans les hôpitaux, leurs droits et qu'ils s'imposent et qu'ils disent non, c'est mon droit. Et c'est ça qu'on essaie de faire, on essaie de briser justement ces barrières financières et on essaie de dire, encourager les gens à se faire dépister parce que la réalité ici en ce moment c'est que une famille doit choisir entre se mettre sous traitement, mettre le parent sous traitement ou nourrir les enfants, envoyer les enfants à l'école ou payer son traitement. Et ça, c'est des choix qui sont absolument inacceptables. Mmh. Et c'est pour ça que les gens doivent s'informer et doivent faire valoir leurs droits.
D'accord. Alors, docteur Jean, un auditeur a dit, la RDC est en retard de 15 ans dans la lutte contre le VIH/SIDA. Est-ce que a-t-il raison ou pas?
Oui, justement, en fait, je crois que cette question a été beaucoup plus adressée à Louise, qui en a effectivement parlé hier. Je crois qu'elle peut donner peut-être plus d'explications que moi sur la question.
Oui, on en avait parlé entre débat entre Congolais hier soir. J'étais là et bien sûr, on en avait parlé. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est que l'état dans lequel les patients arrivent au centre hospitalier Cabinda, ils arrivent complètement décharnés, extrêmement malades. Exactement. Et c'est pour ça qu'un quart des patients qui arrivent dans notre structure de santé décèdent dans les heures qui viennent. Pourtant, ils ont les meilleurs soins au centre hospitalier Cabinda. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas eu accès au dépistage et au traitement. Et ça, on ne le voit pas, que ce soit en Afrique du Sud, Zimbabwe ou en Europe, depuis 15 ou 20 ans. Et c'est pour ça qu'on dit on a 15 ans de retard. Et bien sûr, il y a une volonté du ministère de la Santé, du PNLS et du PNMLS de faire plus. Et ça, on le reconnaît. On travaille avec eux, on fait du mieux qu'on peut. Mmh. Mais maintenant, c'est surtout au gouvernement de se dire « Allez, on a fait des promesses, on a dit qu'on allait prioriser cette lutte. Maintenant, il faut mettre les moyens » à côté des mots. Dire qu'on veut bien faire, c'est pas assez. Maintenant, il faut financer ces centres de santé.
Bien, merci à Louise Roland, Grosselin, chef d'émission adjoint MSF. Et nous disons également merci à Dr. Jean Gilbert, donc responsable médical du projet SIDA MSF Kinshasa. À la prochaine.
Merci à vous. Merci à vous.